Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revenons donc ensemble dans nos lectures en liberté au roman de Yannick Haenel, Tiens ferme ta couronne. Saba est sorti de sous la banquette et il a commencé à gémir et à me donner de petits coups de patte sur les cuisses. Il ne manquait plus que ça. Il avait faim. Je ne lui avais rien donné à manger depuis ce matin et d'ici quelques minutes, il allait devenir incontrôlable. Je réussis à capter l'attention de la serveuse et lui demandai s'il était possible que mon chien, qui d'ailleurs n'était pas mon chien, mais que je gardais en l'absence de son maître, et qui m'accompagnait ce soir uniquement parce que celui-ci tardait à rentrer d'un voyage à l'étranger. Bref, je lui demandai s'il était possible de lui servir quelque chose à manger. La jeune serveuse parut interloquée, et bientôt je vis réapparaître Emmanuel Macron. « On ne sert pas de nourriture aux animaux, » dit-il, sur un ton exaspéré. « Vous n'avez pas compris. Les animaux sont interdits. » Je n'ai fait une exception que parce que M. Pointel vous a recommandé. » Le vin rouge me faisait perdre les pédales. J'insistais effrontément. Macron trouva que j'exagérais. Il menaça d'appeler le directeur. L'alcool me tournait la tête. Ça tanguait, comme si nous avions embarqué sur un baleinier. Saba, à cause des éclats de voix du maître d'hôtel, avait carrément bondi hors de sa cachette et lui grimpait dessus, la langue pendante, sans qu'on sache s'il voulait jouer ou attaquer. C'est alors que, regardant autour de moi avec honte, car tout le monde s'était tourné vers le chien qui sautait de plus en plus haut, j'aperçus, attablé devant un plateau de fruits de mer, les deux moustachus. Je me levai d'un bond et criai « Vous là !» suivi par Saba, qui, tout content, se mit à aboyer. Je me jetai sur le premier moustachu et le fis tomber de sa chaise, sous l'air consterné du serveur qui était en train de lui servir du vin. « Mais qu'est-ce que vous foutez là » hurlai-je. « Vous me suivez, n'est-ce pas ?» Tandis que le moustachu que j'avais renversé s'empêtrait dans sa chaise, l'autre s'était levé de la banquette, la serviette nouée autour du cou. Le poing brandi dans ma direction, il m'injuriait. Une fois relevé, le moustachu que j'avais agressé et que j'identifiais comme étant moustachu numéro 1, celui aux moustaches en pointe, me sauta dessus et commença à me rouer de coups. Au moment où je tentais de répliquer, le serveur, d'une manière fâcheuse, le retint de sorte que Moustachu 1 ne put se protéger du coup de poing que je lui écrasais sur le nez. Ils tombèrent tous les deux à la renverse et s'écroulèrent sur la table à côté, sous les hurlements des clients. Je criai à l'attention de tous. « Ce sont des flics! Ils me suivent partout! Ils sont même entrés chez moi !» Bien sûr, personne ne réagit. Et j'avais conscience du caractère absurde de mes paroles. S'ils étaient des flics, qui étais-je donc? Macron avait accouru pour me maîtriser, aidé par deux serveurs, et ils avaient commencé de nous conduire jusqu'à la porte, moi et mon satané Kleps. Déjà, ils nous poussaient vers la porte d'entrée, celle que nous avions si difficilement franchie à peine une demi-heure plus tôt, lorsque Pointel, appuyé sur une béquille, fit son apparition. L'œil du cerf. Pointel arrangea la situation. Le maître d'hôtel accepta mes excuses. Je jurai de rester calme. Saba obtint une gamelle de viande qu'on disposa sur le trottoir et qu'il dévora sous ma surveillance, tandis que Pointel, qui n'avait pas bien compris ce qui s'était passé ou qui s'en foutait, continuait à répondre à des coups de fil tout en s'appuyant lourdement sur sa béquille. Il avait un énorme plâtre couvert d'inscriptions au feutre rouge qui lui prenait la jambe droite jusqu'à la cuisse. Et puis ses gestes étaient véhéments, il parlait fort. Avec ses cheveux longs un peu filasses qui lui couraient sur les épaules, un visage couturé de cicatrices, une barbe de 4 jours et un cigare éteint collé à sa lèvre inférieure. Il était méconnaissable. Certes, lorsque je l'avais rencontré 6 mois plus tôt dans son bureau de la rue Notre-Dame de Nazareth, il m'avait donné l'impression d'apprécier une certaine fantaisie et même d'être un peu givré. Mais tout dans sa personne et jusqu'aux soins apportés à son bronzage désignait l'homme d'affaires. Ce soir, on aurait dit plutôt un clochard qui venait d'être passé à tabac, d'autant plus qu'il avait découpé le pantalon de son costume afin de pouvoir l'enfiler sur le plâtre et les 2 pans du tissu flottaient autour de sa jambe d'une manière absurde comme des haillons. « Vous ressemblez au capitaine Akab, lui dis-je. « Quoi ? Votre jambe, c'est une baleine qui vous l'a prise ?» Tout en boitant vers notre table, accompagné de Saba, qui le ventre plein était redevenu calme, Pointel me raconta qu'il venait d'avoir un accident de voiture. C'était une nuit en Pologne. Il revenait de la célèbre école de cinéma de Lodz, où un vieil ami à lui, Jerzy Skolimowski, le réalisateur de Deep End et de Travail au noir, qui avait adapté récemment Ferdinand Dourke de Gombrowicz, venait de faire une masterclass. La route traversait une forêt, il roulait comme un damné, et un cerf aux abois immense avait surgi des ténèbres. La bête s'était jetée sur sa voiture, comme si elle avait voulu se suicider. Elle avait percuté très violemment le pare-choc avant de retomber sur le capot dans un fracas de tonnerre. À ce moment-là, tandis que la voiture basculait dans les sous-bois et s'écrasait contre un sapin, il avait vu le cerf soulevé dans les airs et c'était une vision presque mystique, me dit Pointel. Une si énorme bête projetée dans le ciel noir de Pologne, entourée d'un dais de sapin, on aurait dit une apparition. Pointel n'en revenait toujours pas. Et pourtant, me dit-il, stationné au beau milieu de la grande salle de Boffinger, alors que Macron s'impatientait car nous gênions le passage et que j'essayais d'éviter le regard des dîneurs qui avaient assisté à mon esclandre. Ce n'était pas son genre de prendre au sérieux ces histoires d'annonciations animales et autres foutaises de catéchisme. Mais là, il s'était vraiment passé quelque chose. Une sorte de miracle, précisa-t-il. Car après s'être déployé dans les airs, le cerf, en retombant, avait pulvérisé le pare-brise et ses bois s'étaient dirigés droit vers lui, comme des banderilles de toreros, et déjà, il se voyait transpercé de toutes parts. Il se voyait les yeux crevés, disait-il. Il se voyait mourir par les yeux. Mais les banderilles s'étaient enfoncées dans le siège tout autour de sa tête, à quelques millimètres de son visage. Et lorsqu'il avait recouvré ses esprits, il ne pouvait plus bouger. Non seulement les fourches de la ramure formaient une grille autour de lui, mais le cerf, en s'écrasant contre sa poitrine, l'avait complètement immobilisé. Pointel était prisonnier de sa voiture en pleine nuit dans une forêt du fin fond de la Pologne, et le pire, c'est qu'il ignorait si l'animal qui se vidait sur lui de son sang était encore vivant ou non. Macron interrompit brutalement le récit de Pointel en lui prenant le bras afin qu'il gagne au plus vite sa place. Il fallait que nous circulions, ce n'était plus possible que nous restions ainsi debout au beau milieu du restaurant, d'autant que Saba avait commencé sa toilette et qu'un dalmatien en train de se lécher les parties génitales constituait pour la clientèle un spectacle inapproprié. Je jetai en passant un coup d'œil vers la table des deux moustachus qui avaient disparu. Saba se glissa sous la banquette. La serveuse s'affaira pour ajuster le fauteuil de pointelle. Je lui servis un verre, je m'en servis un autre. La bouteille était maintenant vide. À cause de son plâtre, il n'arrivait pas à s'asseoir, si bien que nous trinquâmes debout sous les regards agacés de nos voisins qui n'en pouvaient plus d'être dérangés. « À l'œil du cerf !» dit Pontel. Le sommelier à la perruque noire apporta une nouvelle bouteille de pinot noir qu'il fit goûter à Pointel, et tandis que la serveuse aménageait un tabouret à l'extrémité de la table pour que Pointel pût reposer sa jambe, voici que nous sifflions déjà un nouveau verre. On dit qu'au moment de mourir, on voit défiler le film de sa vie. Pointel, durant la première nuit qu'il avait passée coincé dans sa voiture, n'avait quant à lui cessé de fixer avec angoisse l'œil du cerf qui brillait dans les ténèbres. Cet œil lui semblait vivant. Ainsi craignait-il son réveil. Il avait peur qu'en se dégageant, le cerf ne lui arrachât la tête avec ses bois. Alors il s'était mis à guetter le moindre frémissement de la bête sans comprendre qu'elle était morte, car dans cet œil qui n'était qu'à quelques centimètres de son visage et qui s'obstinait à demeurer ouvert, on n'aurait pu trouver que le vide et la nuit, le vide de la forêt, le vide de la Pologne, où il s'en voulait maintenant d'être venu se perdre. Dans sa colère, il s'était maudit mille fois et avait maudit le cinéma, les réalisateurs, la course à l'argent, la folie de faire des films. Car dans l'œil vide du cerf, c'était finalement le vide de sa propre vie qui se reflétait, un vide abyssal et aberrant, me dit-il, le néant d'une vie qui n'avait jamais été qu'une longue obéissance à des passions secondaires, inutiles, absurdes, dont chacune n'était asservie qu'au seul vice de ne jamais s'arrêter. Finir enfermé à l'intérieur de sa propre voiture lui semblait une plaisanterie macabre, mais aussi l'image logique de son destin, car il ne sortait plus de cette voiture dont il avait fait son bureau, passant l'essentiel de son temps à téléphoner en fonçant la nuit sur les autoroutes d'Europe, menant ses affaires de Paris à Rome, de Rome à Genève, de Genève à Berlin, et toujours de rendez-vous en rendez-vous dans cette voiture qui était devenue, il s'en rendait compte à présent, une cage. Finalement, me dit Pointel, j'ai toujours vécu dans une cage. Et peut-être vivons-nous tous enfermés dans notre cage. Personne n'a réellement envie d'en sortir. Vivre dans une cage nous satisfait, car nous n'avons ni courage, ni imagination. Nous voulons que rien ne nous arrive, et il ne nous arrive rien. En vérité, nous ne vivons pas vraiment, nous passons notre temps à observer un œil, et nous nous faisons croire que nous surveillons cet œil, alors que non seulement c'est cet œil qui nous surveille, mais qu'en plus cet œil est celui d'un mort. « Voilà, me dit Pointel, nous vivons sous le joug halluciné de l'œil d'un mort. » C'est ce qu'il avait compris en restant bloqué dans sa voiture, tandis que le cerf se vidait sur lui de son sang.
Pour être social, faut que je sois noir. Et ça c'est le mien, tu m'en remets un. Et ça c'est le mien, je te le paye demain. Maintenant 8 jours que je suis dessoudé. Quel est ce pion, j'ai pu les clés. Chier leur palier. Faudrait que je sois straight pour apprécier. Et ça c'est le mien, tu m'en remets un. Et ça c'est le mien, je te le paye demain.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Yannick Enel, tiens ferme ta couronne. Les premières lueurs du jour étaient arrivées et personne n'était venu à son aide. Personne n'avait remarqué cette voiture écrasée contre un sapin dans la forêt. Non seulement il ne passait presque aucune voiture sur ces petites routes du centre de la Pologne, mais lorsqu'il en passait une, on ne faisait qu'en entendre la rumeur au loin. Pointel se rendit compte qu'il était impossible qu'on le repère, parce que sa voiture s'était enfoncée très loin dans la forêt, recouverte par les branches d'un sapin, et elle n'était tout simplement plus visible. Il avait eu beau crier, c'était le silence. Il était enseveli dans son tombeau, enterré au cœur d'une forêt avec pour linceul une peau de cerf couverte de sang. Il se mit à hurler. Il hurla pendant des heures. Jamais il n'avait hurlé ainsi, me dit-il. Il hurlait avec le désespoir du condamné à mort. Et puis il craignait d'être dévoré par les bêtes sauvages que l'odeur du cadavre commençait à attirer. La journée s'acheva, il avait soif, il claquait des dents et dans la nuit l'œil du cerf continuait à le fixer. Pourquoi donc était-il venu s'écraser contre sa voiture? Il se souvenait vaguement de cette légende où un grand cerf, le front surmonté d'une croix, vient maudire le chasseur qui a massacré sa famille, mais lui, Pointel, mais qu'avait-il donc fait de mal? Cela faisait 24 heures qu'il n'avait plus bougé les jambes ni les bras. Et il avait beau essayer de se débattre, il ne sentait maintenant plus rien que le froid, la faim et la soif. À force de le guetter, il avait cru trouver dans l'œil du cerf un passage. Il était entré à l'intérieur de cet œil, s'y était faufilé comme dans un couloir, mais rien ne s'ouvrait, le couloir n'en finissait jamais. Il n'y avait ni porte, ni fenêtre. Aucune lumière, aucune vie. Les mouches tournaient autour du cadavre puant du cerf. Et Pointel dit que durant la deuxième nuit, il avait tourné hagard, comme une mouche dans son propre gosier. Il se voyait déjà mort. Figurez-vous que j'ai pensé à Montaigne, me dit-il. Ben, je crois que je ne l'avais jamais lu depuis l'école. Et pourtant, les phrases me sont revenues. C'est quand il tombe de cheval et pense qu'il assiste à sa propre mort. Bien entendu, il est impossible de vivre sa propre mort. Personne n'est jamais revenu pour nous dire qu'il était mort et qu'il avait vécu l'instant de sa mort. Mais Montaigne dit quelque chose comme ça. Je pensais à me tenir prêt pour voir si, en cet instant de la mort, si court et si bref, je pourrais apercevoir quelque délogement de l'âme. Je ne me souviens plus très bien de la phrase, dit Pointel, mais l'expression « délogement de l'âme », j'en suis sûr. C'était exactement ce que j'attendais en contemplant dans l'œil du cerf le reflet de mon propre visage en train de se vider. J'ai pu vérifier que l'instant de la mort n'était ni court ni bref. Au contraire, ça dure, ça n'en finit plus, on crève lentement, et une espèce de torpeur hallucinée m'avait gagné. Je délirais à force d'avoir faim et soif et froid, et puis je sentais que mes forces me quittaient. Des choses s'en allaient de moi, minuscules. Et mon âme elle-même allait se détacher de mon corps, que je ne sentais déjà plus. Montaigne avait raison de parler de délogement de l'âme. L'expression était exacte. Coincé dans la voiture avec les mouches qui me tourmentaient les yeux, la bouche, le nez, j'ai regretté de ne pas avoir lu Montaigne de plus près. On ne se prépare jamais assez à la mort, mais surtout la lecture de Montaigne m'aurait apporté de quoi penser. J'aurais pu mobiliser mes souvenirs de lecture. Et comme j'avais passé ma vie à lire des scénarios, c'est-à-dire des phrases qui s'effacent, je n'avais rien à mobiliser, à part la petite phrase de Montaigne, dont je ne savais même pas s'il était exact. J'étais bel et bien vide. Alors j'ai passé beaucoup de temps avec cette petite phrase. Je l'ai roulée sur ma langue comme un noyau. Je me la suis infusée. Au point que plusieurs fois durant cette deuxième nuit, alors que le moindre bruit dans les ténèbres autour de la voiture me terrorisait, j'ai cru que j'entrais dans cette espèce de tressaillement ultime que Montaigne indique. J'ai cru que mon âme se délogeait, et j'ai éprouvé une joie folle. C'est la chose la plus étrange qui me soit arrivée dans ma vie. Je me suis abandonné. Combien de temps cet abandon a-t-il eu lieu, je l'ignore. Mais il a ouvert dans ma tête une faille, un vide. Et croyez-moi, rien ne peut s'y loger. C'est la place de l'abandon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous abandonner? De vous abandonner vraiment? Ça m'est arrivé. Et c'est ainsi que je suis mort. C'est ainsi que mon âme s'est délogée. Le reste est anecdotique, me dit Pointel en se servant un verre de vin qu'il avala cul sec. Le deuxième jour, alors que le soleil était déjà haut dans le ciel et que je n'arrivais plus à saliver, un vieux bonhomme a surgi, une tête de hibou, les pieds nus, un tricot en peau de mouton et une grosse barbe sale. Il avait des yeux de fou, et s'est avancé en pointant son fusil vers moi. J'ai cru qu'il allait me tuer. Du bout du fusil, il a touché le cerf, puis il s'est mis à me parler. Ses phrases étaient brutales, comme s'il aboyait. Et moi aussi, je voulais parler. Mais aucun son ne sortait de ma bouche. Le type a sorti un couteau, et il a commencé à dépecer le cerf. J'ai pensé, quand il aura fini avec le cerf, il va prendre ma viande. Il s'est approché. La lame du couteau a brillé devant mes yeux, Je crois que je me suis évanoui. Puis d'un coup, ma poitrine s'est libérée. J'ai respiré un grand coup. Il me semble que je sentais pour la première fois l'odeur de la forêt, le parfum âcre des fougères, la terre humide, l'immense fraîcheur tapie sous la brûlure du soleil et cette espèce d'ivresse qui vient de la sève des sapins. À ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus bouger. J'ai hurlé. Ou plutôt, un hurlement est sorti de moi, un hurlement froid. Le vieux m'a dégagé, je ne sentais plus mes jambes. Il m'a porté dans ses bras jusqu'au bord de la route, où il m'a déposé. Je ne me souviens pas bien. Est-ce qu'il est resté avec moi en attendant une voiture? Je me revois couché dans une camionnette, puis c'est l'hôpital. Le plâtre, juste une jambe cassée, un miracle. Et plus tard avec un dépanneur dans la forêt pour tracter la voiture. Et l'œil, pour toujours, dans ma tête. Mais c'est ainsi, dit-il, que je suis vivant. Pointel arrêta net son histoire. Son téléphone sonnait. Il leva son verre. « À Michael Cimino, dit-il. » Nous trinquâmes. Et il me posa la question qu'il m'avait posée par SMS, question à laquelle je n'avais pu répondre à cause de l'apparition sur mon palier des deux moustachus. « Alors comme ça, Cimino est devenu une femme. » « C'est beaucoup plus fort, dis-je. Ni homme, ni femme. » Ça n'en finissait plus de sonner, il fallait qu'il réponde. Il me demanda de l'excuser et se leva lourdement, en prenant appui sur sa béquille. J'étais de nouveau seul avec l'aquarium, la verrière et les regards des dîneurs. Après avoir écouté ce long récit, je me sentais nu. J'avais faim. Si je continuais à boire ainsi sans manger, j'allais rouler sous la table. Déjà, il me semblait impossible de revenir au port. J'étais embarqué, et si pour le moment la mer était calme, les vagues annonçaient une tempête à décrocher les étoiles. De nouveaux clients arrivaient, Macron ne cessait d'aller et venir, et chaque fois qu'il passait devant ma table, il me jetait un regard mauvais. Et Saba, je me penchai sous la table. Il s'était endormi. J'ai ouvert la carte. Il fallait absolument que Pointel et moi commandions. Il proposait des choucroutes de la mer. L'expression m'a fait rire. Ça avait l'air assez consistant. Lotte, saumon, haddock, quenelle à l'encre de sèche, gambas et pommes à l'anglaise. Mais j'avais surtout envie d'huîtres. Après tout, j'avais peu d'occasion d'en manger, alors qu'une choucroute, même une choucroute de la mer, j'imaginais à tort ou à raison que c'était plus couru et même un peu vulgaire. Des huîtres. Voilà ce qu'il me fallait. D'après la carte, Bofinger les garantissait croquantes, vigoureuses, fondantes ou charnues. Ces quatre qualificatifs me plaisaient. Ils étaient prometteurs, d'autant qu'étaient proposées, sans trop que je sache à quoi elles correspondaient, toutes sortes de variétés, les spéciales Grand Cru de Normandie numéro 2, les spéciales Sélection Bofinger numéro 3, les fines de Claire numéro 2 et numéro 3. Celle-ci me disait quelque chose. Puis les spéciales Gilardeau numéro 3, ainsi qu'un énigmatique et alléchant casting d'huîtres dont je supposais qu'il consistait en un mélange des précédentes. Le casting, voilà ce qu'il me fallait. J'ai souri tout seul. Heureux, comme on l'est après une bonne décision, je me suis servi un verre de pinot noir et l'ai avalé cul sec. Voilà pour ce soir, donc la suite de ce roman de Yannick Enel, Tiens ferme la couronne, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.